RCF.
Et à 18h10 sur RCF France-Ardennes, nous allons retrouver le 18-19 avec Jean-Pierre Benoît.
Bonjour à tous, en ce jeudi 2 novembre, jour de la commémoration des défunts, nous sommes en direct pour ce magazine entre 18h10 et 19h. Pour m'accompagner ce soir, Lorraine est avec nous. Bonsoir Lorraine.
Bonsoir Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous, un magazine en direct et on en reparlera tout à l'heure pour la commémoration des défunts avec Patrick Demuy. D'ailleurs Solène, c'est un magazine bien rempli ce soir qui est marqué par la tempête Ciaran, qui n'a pas épargné la région. Les dégâts restent globalement limités. On l'évoquera bien sûr dans le journal ce soir à 18h30.
Bien sûr, oui Jean-Pierre. La tempête Ciaran a balayé le pays et notre région avec des vents bien moins importants qu'en Bretagne ou sur les côtes. On retiendra la situation des foyers privés d'électricité et la situation par exemple à Signy-l'Abbaye dans le journal. On donnera la parole aussi à un maire, ou plutôt une maire, Anne Frépon, maire du Mont-Dieu dans les Ardennes, une commune de 14 habitants. Et enfin, Patrick Demuy, historien, reviendra sur la journée du 2 novembre dans l'histoire.
On reviendra bien sûr tout cela à un magazine bien rempli, bien chargé. Et puis Lorraine, on évoquera également la situation du club de foot de Sedan, le CSSA, avec en direct avec nous tout à l'heure Yann Hureau. Car pour beaucoup d'Ardennais, la disparition de Sedan du National a créé un véritable traumatisme. Le mot n'est pas trop fort pour beaucoup d'Ardennais. Et ça, ce sera en fin d'édition. Et puis en fin d'édition, on aura encore un autre rendez-vous, Solène. Décidément, on a pas mal de choses ce soir.
Et oui, Jean-Pierre, nous retrouverons Jackie Weiss, libraire qui a travaillé de nombreuses années à la librairie Guerlain. Jackie Weiss est actuellement à Bordeaux, où il s'est retiré il y a quelques années. Il revient à Reims et à Joncherie, ses tout prochains jours, pour la dédicace de son dernier livre, Que lentement passent les heures. On le retrouvera aussi la semaine prochaine.
Absolument, et dans un tout autre registre, on évoquera tout à l'heure la braderie d'automne à Charleville. Pour démarrer le jeudi, on parle économie, et l'économie, c'est Gérard-Marie-Henri qui est avec nous. Il revient sur les voitures chinoises, il est au micro d'Alexis Claudrette.
Gérard-Marie-Henri, je suis allé sur un blog qui était assez chouette, ça s'appelle gérardmariehenri.com.
Oui.
Et là, on parlait voiture.
Oui.
Et de la voiture qui vient de Chine, les Chinois qui inondent le marché de voitures, comment sont-ils devenus si forts dans ce marché de l'automobile?
Ah, bonne question. Alors donc déjà, on a un marché de l'automobile chinois qui a progressé au cours des 30 dernières années de façon assez extraordinaire, puisque maintenant ils sont capables de produire entre 25 et 30 millions de voitures, avec à peu près 400 constructeurs chinois, très petits, du petit au grand, et les grands participe avec des firmes occidentales bien connues comme Volkswagen, BMW, Mercedes, tous ces gens-là sont implantés en Chine, donc il y a un outil de production assez extraordinaire, avec des coûts de production qui évidemment sont faibles puisqu'ils maîtrisent les batteries, ils ont l'électricité pas chère, etc. Donc un avantage comparatif certain. Et ce qui est assez remarquable, c'est que depuis 2, 3, 4 ans, les Chinois achètent de plus en plus de voitures électriques. Or, toute la production de voitures thermiques traditionnelles, les constructeurs chinois se disent qu'il faudrait la vendre à l'extérieur. Et donc, ils sont devenus, en fait, les premiers exportateurs mondiaux devant les Japonais.
Et ça, c'est fort. Parce qu'on ne pensait pas un jour que le Japon serait détrôné du marché de l'automobile.
Absolument, absolument.
Surtout par son voisin chinois.
Surtout par le voisin chinois. Les Coréens aussi sont forts, mais ils sont absolument battus à plate couture. Alors, quels sont les endroits où ces voitures chinoises sont déjà vendues? C'est bien sûr la Russie. Tous les constructeurs occidentaux en sont sortis, donc les Chinois en ont profité. C'est toute l'Afrique du Nord. L'Algérie achète des voitures chinoises depuis au moins 15 ans. C'est l'Afrique. Et puis, ça commence à être l'Europe. Avec une invasion assez récente de voitures qui sont pas mal et qui surtout sont pas chères.
C'est une mauvaise nouvelle pour les constructeurs français. On pense à Renault, on pense à Stellantis, anciennement PSA, Citroën. C'est pas bon.
C'est pas bon. Alors, il y a une parade qui est en train de regarder la Commission européenne. C'est d'augmenter ce qu'on appelle les droits anti-dumping sur les voitures chinoises. Les droits anti-dumping.
C'est-à-dire, parce que on n'est pas forcément bilingue parmi nos auditeurs, bon. Gérard-Marie Henry.
Donc, dans les règles du commerce international, dans les règles de ce qu'on appelle l'Organisation mondiale du commerce, vous avez le droit de vendre aux autres, mais il faut pas tricher. Il faut pas faire de dumping. C'est-à-dire vendre à perte ou vendre en dessous de ses coûts de production. Or, on estime que assez souvent, les constructeurs chinois ou les vendeurs chinois font des prix qui sont un peu tirés à la baisse.
Oui, mais s'ils font des prix à la baisse, finalement, ils ne font pas du business.
Mais ils en font parce qu'ils vont tout progressivement conquérir le terrain. C'est ce qui s'est passé pour les éoliennes, c'est ce qui s'est passé pour les panneaux photovoltaïques. À partir du moment où vous cassez les prix, vos concurrents, ils peuvent pas suivre. Donc, ils disparaissent et après, vous avez le marché et vous pouvez éventuellement remonter les prix à ce moment-là. Donc, la parade des pays comme l'Europe, face à cet comportement chinois, c'est de mettre ce qu'on appelle des droits anti-dumping. On essaye d'estimer de combien ils trichent, de combien de pourcents ils sont en dessous du prix normal, et puis on dit, on vous taxe à 5, 10, 15, 20%, 30%, des fois ça monte jusqu'à 80%, pour les voitures chinoises, pour l'instant c'est 10%. Et la Commission européenne imagine de monter à 20%. Alors, les constructeurs français dont vous parliez tout à l'heure sont assez contents si cette mesure venait à être mise en œuvre, puisque ça les protégerait. Par contre, les constructeurs allemands qui sont forts sur le marché chinois se disent que si on fait ça sur les exportations chinoises, les Chinois vont se venger sur place, vont trouver des tas de petites astuces pour faire du mal à BMW, à Mercedes, à Volkswagen. Donc, il y a vraiment deux camps dans les constructeurs européens. Il y a ceux qui ont peur d'être envahis, c'est-à-dire surtout les constructeurs français, puis ceux qui sont déjà sur le marché chinois et qui aimeraient bien quand même continuer à y être.
Alors j'allais dire aussi, Gérard-Marie Henry, cette Chine, elle est davantage plus forte que les règles sur le marché du travail, ce ne sont pas les mêmes.
Absolument.
Il n'y a pas de contrat, ça travaille jour et nuit, oui, et les voitures, elles se construisent, elles sortent de l'usine.
Absolument, donc on n'a pas du tout les mêmes normes, on n'a pas du tout les mêmes contraintes, on a effectivement des avantages qui sont assez extraordinaires, ça peut monter jusqu'à 10 000 euros sur une voiture moyenne. Le constructeur européen la vendrait à 30 000, et le constructeur chinois à 20 000, il gagne de l'argent. Donc ça fait beaucoup.
Avec quand même une question, est-ce qu'elles fonctionnent? En tout cas, est-ce qu'elles roulent aussi bien ces voitures?
Elles sont pas mal, elles ont monté en gamme de façon assez extraordinaire. On aurait fait l'émission il y a 10 ans, on aurait ridiculisé ces voitures chinoises qui dans les crashs se compactaient, qui avaient des problèmes électroniques, etc. Maintenant, c'est des voitures qui sont finies, ils ont embauché des spécialistes occidentaux. En général, leurs voitures, elles sont dessinées par des gens qui ont bossé chez Porsche, chez Volkswagen, chez Stellantis au besoin, qu'ils ont embauché comme designers, et à l'intérieur des voitures, ils ont des choses qui sont largement aussi bonnes que ce qu'on fait en Europe avec de l'info, enfin tout ce qu'il y a électronique qui est assez luxueux.
Mais comment peut réagir l'Europe face à cela, et la France plus particulièrement? Vous avez expliqué, on peut mettre des lois qui vont interdire, par exemple, l'anti-dumping, comme vous avez dit, Gérard-Marie Henry. Mais est-ce qu'il y a peut-être aussi des possibilités de rendre nos constructeurs meilleurs? C'est quand même ça, l'intérêt, finalement.
Ah oui, d'accord,
finalement.
Mais il faudrait 20 ans, quoi. Alors, donc là, le temps presse. Et alors, on a, bien sûr, ce qui fait du mal, c'est que le marché américain, lui, est complètement fermé aux voitures chinoises. Il est complètement fermé. Il était déjà avant Trump. Trump a durci les règles et Biden ne les a pas changées. Donc, les voitures chinoises ne sont pas sur le marché américain. Et comme elles ne peuvent pas aller sur cet énorme marché, évidemment, elles déboulent sur l'autre énorme marché qui est le marché européen.
Mais le marché européen peut aussi serrer la vis et dire pour nous aussi, c'est non.
Ah oui, d'accord. Mais avec
je vous provoque, moi, Gérard-Marie Henry.
Avec les
de
problèmes que vont avoir les constructeurs allemands qui sont basés en Chine et qui ont besoin, par exemple Volkswagen fait à peu près un tiers de sa production en Chine même.
Et ça pose la question de la relocalisation peut-être.
Ah oui, non, mais si vous ne pouvez pas changer, Volkswagen est à peu près depuis 40 ans en Chine, il ne peut pas du jour au lendemain dire je reprends mes billes, je m'en vais, etc.
On ne peut pas imaginer la chaîne PSA revenir à Sochaux par exemple.
PSA freine un peu ses activités en Chine. Vous savez que par exemple on a des voitures, alors je crois que c'est une Citroën qui est construite en Chine, parce que les Chinois n'en achètent pas de ces Citroën françaises construites en Chine, et donc Citroën les réimporte, fait un peu ce que fait la Dacia pour la Dacia Spring électrique. Elle est faite en Chine, les Chinois ne l'achètent pas, et on l'importe en France pour que les Français aient les petites voitures électriques pas chères. Je crois que le premier modèle doit être à moins de 20 000 euros.
En tout cas, vous, Gérard-Marie Henry, vous roulez en voiture française ou en voiture chinoise?
Je roule en voiture allemande.
Très bien. Bon, donc elle est fabriquée en Chine aussi quelque part.
Non, c'est pas une BM. Les BM électriques sont souvent construites en Chine et réimportées en Europe. Et donc, vous voyez, c'est assez complexe, hein, le choix des constructeurs européens est pas évident puisqu'ils font une partie maintenant de leur production haut de gamme en Chine. Et si l'administration chinoise devenait vilaine, bah, ils seraient un petit peu embêtés. Donc, faudrait pas que la Commission européenne mette des droits anti-dumping trop élevés, même si Renault et Stellantis ont envie.
Merci Gérard-Marie-Henri de nous avoir éclairé. À très bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
On retrouvera bien évidemment Gérard-Marie-Henri la semaine prochaine. Il sera avec nous pour une nouvelle chronique économique. Il est 18h20, toujours en direct. Vous savez qu'on donne beaucoup la parole au maire. Proximité oblige avec RCF à Reims, dans l'arrondissement de Reims et dans les Ardennes. Et aujourd'hui, on se rend dans le département des Ardennes à la rencontre de Anne Frépon. Elle est maire du Mont-Dieu dans le département des Ardennes, une commune qui, comme le rappelait Lorraine il y a quelques instants, a 14 habitants. Anne Frépon, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette commune? Il faut rappeler qu'elle n'a que 14 habitants.
Oui, alors on a perdu encore quelques habitants cette année puisque nous sommes aujourd'hui à 11 habitants.
Alors 11 habitants, mais alors il y a des membres de votre famille, il y a des agriculteurs, ces habitants, que font-ils au Mont-Dieu ?
Alors oui, il y a des personnes retraitées, il y a des actifs, il y a des agriculteurs, effectivement, il y a des enfants, bon, c'est assez représentatif, mais 11 habitants, 7 conseillers, donc chaque famille est représentée.
Alors ça c'est formidable, mais le Mont-Dieu, quand on connaît un peu l'histoire des Ardennes, on a l'image de ce bâtiment, de cette chartreuse du Mont-Dieu.
Mmh. Tout à fait. Le Mont-Dieu, donc, c'est une commune tout à fait atypique, hein, puisque, bon, il y a cette magnifique chartreuse, la forêt domaniale, donc, c'est ce qui caractérise la commune. Il n'y a pas de centre de village, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de mairie, voilà, c'est, la commune, c'est la chartreuse et 8, 9 sites qui en dépendaient historiquement.
Alors, Anne Frépon, les réunions du conseil municipal, vous la faites dans la chartreuse, forcément?
Non, on les fait chez moi, puisque la mairie, les archives sont hébergées chez moi, donc nous organisons les réunions de conseil chez moi.
Alors, vous êtes maire depuis quelques années, Anne Frépon?
Oui, tout à fait. J'ai pris en cours de mandat en 2005, donc voilà, ça fait effectivement quelques années.
C'était un peu dans votre ADN. Il faut dire aussi que vous avez une responsabilité comme vice-présidente du conseil départemental des Ardennes. Mais là, vous avez une expérience de terrain de commune. Ça, c'est très important.
Oui, tout à fait. Vous avez raison. C'est vrai que voilà, j'étais déjà conseillère municipale avant 2005. J'avais évidemment un intérêt pour la vie de la commune, le développement. Et effectivement, j'ai poursuivi en 2015 en me présentant au conseil départemental.
Alors évidemment, celles et ceux qui nous écoutent de la Marne en particulier, mais aussi des Ardennes, ils entendent bien sûr le nom du Mont-Dieu, mais ils n'arrivent pas forcément à situer où est exactement le Mont-Dieu dans le département des Ardennes.
Alors le Mont-Dieu, avec ses montagnards divins, je tiens à le préciser, se situe donc entre Chémery-Chéry et Le Chêne, pour être un peu plus large entre Sedan et Vouziers, oui. À mi-distance entre Sedan et Vouziers, dans le massif, c'est le début du massif de l'Argonne.
Lac de Béron par là, enfin pas trop loin.
Tout à fait, on est à une dizaine de kilomètres du lac de Béron, bien sûr.
Alors c'est peut-être passé inaperçu, mais pas aux oreilles des auditeurs avisés, vous avez donné le nom des habitants du Mont-Dieu. Comment s'appellent les habitants du Mont-Dieu?
Alors les montagnards divins.
Les montagnards divins.
Excusez-moi du peu.
Mais c'est quand même extraordinaire. Des montagnards qui se trouvent dans le département des Ardennes. Alors, le maire est souvent sollicité. Beaucoup s'interrogent face aux responsabilités. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui refusent de prendre la responsabilité de maire aujourd'hui. Parce qu'ils se disent, on est en première ligne et c'est pas toujours facile.
Oui, c'est vrai, vous avez raison de le préciser, et c'est vrai que les responsabilités, enfin, on l'abordera peut-être un petit peu après, mais bon, avec les communautés de communes, bon, il y a certaines compétences que les communes ont perdues, mais pour revenir à l'échelon communal, moi j'accorde beaucoup d'importance à cet échelon qui est le premier échelon en fait accessible aux administrés. Et oui, les administrés se tournent
vers le maire.
Voilà, surtout dans les petites communes.
Absolument.
Hein, où il y a peu de services.
Vous avez raison.
Voilà.
Vous avez raison, Madame Frépon. Alors, les communautés de communes, vous venez de les évoquer, et les regroupements, est-ce qu'ils ont modifié le rôle? Est-ce qu'on dit toujours, est-ce que le maire est toujours le patron chez vous, dans sa commune?
Oui, bien sûr, il l'est. Hein, mais c'est vrai que depuis la loi NOTRe, donc depuis 2015, hein, comme je vous le disais, il y a eu un certain nombre de compétences transférées aux communautés de communes. Bon, le maire peut rester impliqué ben, s'il participe aux réunions de communautés de communes, s'il s'implique au niveau de cette collectivité. Voilà, il peut rester très actif à ce niveau-là.
Mais il faut dire que vous, enfin je vais revenir sur vous, parce que comme vous êtes aussi vice-présidente du Conseil général des Ardennes, vous avez aussi un regard un peu plus, entre guillemets, départemental, général, et donc ça aussi, ça peut vous aider dans le cadre de votre commune. Vous êtes au courant de beaucoup de choses.
Oui, c'est sûr que c'est un atout, c'est une vision beaucoup plus large. Bon, malgré que la commune, 11 habitants, comme je vous disais, avec peu de services, hein, notre principale préoccupation pour revenir à la commune est la voirie. Hein, on n'a pas de lieu public, on n'a pas. C'est vraiment la voirie.
C'est les routes, c'est l'aménagement, voilà.
C'est ça.
Qu'est-ce qu'on vous demande? Quel type de demandes, de questions sont formulées par. Mais comme ils sont 11. Vous pouvez les voir un par un, c'est vraiment incroyable. Là, vous pouvez les questionner régulièrement, vos habitants.
Oui, c'est vrai que déjà, comme je vous disais, chaque famille est représentée. Il y a pratiquement tous les 7 conseillers sont présents à chaque réunion de conseil municipal. Donc c'est vrai qu'il y a, il y a un échange de proximité régulier. Donc ils me sollicitent à cette occasion. La mairie n'a pas d'heure d'ouverture. La secrétaire est là en général. Elle travaille à distance ou elle vient une fois par mois. Il n'y a pas plus de besoin. Alors les sollicitations, ça va être l'état civil, mais ça va être 3 fois par an. Et puis ben, les soucis de voirie, chacun dans sur son secteur, hein, voirie, bas-côté, soucis d'entretien, c'est essentiellement les sollicitations que je reçois.
Mais même justement, c'est assez exceptionnel, même quand il y a 11 habitants dans la commune, ça veut dire que quand même, là ils ont un interlocuteur ultra proche, le maire, ils sont pas du tout abandonnés comme s'ils avaient été dans un grand ensemble.
Oui, c'est sûr. Hein, voilà, il y a une proximité.
Et vous avez quand même, malgré que vous êtes peu nombreux, mais vous avez des projets essentiellement de voirie en cours à plus long terme. Oui. C'est essentiellement ça.
C'est ça. Hein, on ne peut pas. De toute façon, comme je vous disais, on n'a pas. Voilà, pas aucun lieu public, aucune propriété communale. Donc je pense que le projet, c'est le maintien, on est vraiment soucieux, le maintien correct de l'état de la voirie.
Alors, j'ai quand même une question qui n'est peut-être pas, c'est pas peut-être un petit peu décalé, mais la région du Mont-Dieu, elle est assez exceptionnelle au niveau de l'environnement, des forêts, etc. On peut se promener du côté du Mont-Dieu. On ne visite pas, hein, je crois, la Chartreuse. Hein, c'est privé. Non.
Voilà, c'est ça. La Chartreuse est une propriété privée, mais oui, pour répondre à votre question, en matière de balade, c'est à l'infini. C'est à l'infini. La forêt nous offre de magnifiques. Magnifique balade. Et puis, comme je vous disais en commençant, c'est le début du massif de l'Argonne. Donc oui, au niveau naturel, on a un patrimoine exceptionnel.
Pour terminer, Anne Frépon, parce que le temps passe très vite avec vous, est-ce qu'on peut dire que vous êtes une mère heureuse? Est-ce que vous êtes contente de cette mission, de cette fonction?
Oui, bien sûr. Oui, c'est intéressant. Et ce qui est très agréable dans la commune du Mont-Dieu, c'est qu'il y a une bonne ambiance de travail, il y a une solidarité entre tous. Voilà, oui, tout à fait.
Anne Frépon, on va se faire une promesse, c'est que d'ici quelques temps, vous reveniez sur l'antenne, peut-être comme vice-présidente du conseil départemental ou d'autres fonctions, pour nous parler un petit peu de votre région des Ardennes à laquelle vous êtes particulièrement attachée. En tout cas, merci Anne Frépon, maire du Mont-Dieu, avec les montagnards divins, d'avoir été avec nous. Et à très bientôt sur RCF. Au revoir.
Je vous en prie, merci à vous, au revoir.
Au revoir. Voilà, c'était Anne Frépon, invitée de Votre Mère nous parle, c'était ce midi. À noter dans l'agenda que demain midi, dans l'émission Votre Mère nous parle, notre invitée sera Madame Marie Rose et les maires de Murphy, dans le département de la Marne, et on aura bien sûr l'occasion de les retrouver. Et puis, rappelons aussi que demain matin, puisqu'on parle de nos programmes, ce sera à 7h, ce sera en direct, Monseigneur Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims, qui se trouve actuellement à Lourdes, il vient d'arriver, Monseigneur Véteux sera en direct avec nous de Lourdes.
Le 18-19 sur RCF.
Il est 18h30, on va revenir tout de suite sur l'actualité. On retrouvera tout à l'heure en direct Yannick Hureau, qui sera avec nous depuis le département des Ardennes. Tout de suite, les titres du journal. L'actualité en trois titres, la tempête Ciaran, demain le début de l'assemblée plénière des évêques de France, retour sur une aventure au lycée Saint-Jean 23, le plan et le projet Kilimandjaro, on en reparle aujourd'hui.
RCF, le journal. Jean-Pierre Benoît.
La tempête Ciaran, des rafales la nuit dernière et en début de matinée dans notre région, à Reims et dans les Ardennes, avec des commerces et foyers privés d'électricité. Pour en savoir un peu plus, avec nous, Lorraine, pour enfin nous donner quelques nouvelles locales, mais je crois que ça s'améliore.
Eh bien oui, Jean-Pierre, aujourd'hui, des rafales de vent ont quand même dépassé parfois les 100 km par heure. 99 km kilomètres par heure à Trigny, dans la Marne, 85 km par heure dans le Retélois et jusqu'à 100 km heure à Vatry. Les données relevées ce matin sont loin des records de la tempête de 1999 qui avait fait beaucoup de dégâts. Toutefois, les vents ont tout de même soufflé fortement sur la Champagne-Ardenne, notamment depuis 4 heures du matin en raison de la tempête Ciaran. C'est quand même 7000 foyers sans électricité ce midi. Principale conséquence de cette tempête en Champagne-Ardenne. Jusqu'à plus de 11 000 foyers ont été privés d'électricité dans la Marne et les Ardennes à 8 heures ce matin. Des coupures qui ont des incidences chez des commerçants, puisque certaines boulangeries n'ont pas pu ouvrir ce jeudi.
Alors il faut dire que, évidemment, ça va s'améliorer, mais on a encore quelques chiffres de la journée, parce que ça ne s'est pas passé quand même comme prévu. Il y a encore eu du vent aujourd'hui, cet après-midi. Hein.
Oui, et puis des vents qui ont eu des conséquences aussi sur les transports. Dans les Ardennes, les trains qui relient Charleville-Mézières à Givet, dans le nord du département, sont restés immobilisés jusqu'à 16 heures. Selon Enedis, c'est la commune de Signy-l'Abbaye dans les Ardennes qui a été le plus touchée, avec 828 clients coupés à 8 heures ce matin. Enedis relevait 3600 clients coupés d'électricité dans les Ardennes et 4300 dans la Marne. La situation s'est considérablement améliorée, Jean-Pierre, en fin d'après-midi, et la météo de demain est plutôt rassurante.
On verra cette météo demain, mais je crois quand même qu'il y a eu un drame, une tragédie. Cette fois, c'est dans le département de l'Aisne, tout voisin.
Oui, à noter, Ciaran a fait une victime. Un chauffeur routier a perdu la vie dans le département de l'Aisne, en effet.
On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. À noter également que le préfet de la Marne vient d'envoyer un communiqué avec une catastrophe naturelle qui est reconnue, reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, non pas pour la tempête de maintenant, mais pour ce qui s'était passé en juin 2023 à Reims. Il y a eu des inondations et des coulées de boue. Eh bien, au journal officiel d'aujourd'hui, la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été annoncée. Ça veut dire que les sinistrés disposent aujourd'hui d'un délai de 30 jours à compter de cette publication de l'arrêté pour déposer un état estimatif de leurs dommages auprès de leur compagnie d'assurance. Dans un tout autre domaine, à noter que demain, ce sera le début de l'assemblée plénière des évêques de France à Lourdes. Demain, ces retrouvailles pour les évêques vont être particulièrement importantes. Ils vont se dérouler d'ailleurs sous la présidence de Mgr Éric de Moulin-Beaufort, leur président. Et parmi les nouveaux venus dans cette assemblée, Mgr Étienne Véteux, ordonné évêque le 9 septembre dernier à Reims, avec la mission d'évêque auxiliaire de Mgr de Moulin-Beaufort. Donc pour lui, c'est une première. On aura l'occasion d'interroger demain matin en direct au cours de nos informations locales. Il faut rappeler que plusieurs thèmes vont être abordés au cours de cette session, parmi lesquels celui de la mission, une réflexion des évêques qui échangeront sur le fond de la mission, avec l'éclairage positif, celui des derniers rendez-vous, Kérigma à Lourdes, les JMJ de Lisbonne et le voyage du pape à Marseille. Nous y reviendrons. Alors, dans un tout autre domaine, dans un tout autre registre, on change complètement de sujet, Lorraine. C'est vrai qu'en automne, il y a la conférence des évêques, bon, et ça, c'est complètement différent. À Charleville-Mézières, eh bien, demain et samedi, il va y avoir la fameuse braderie d'automne.
Et oui, Jean-Pierre, on va se retrouver pour 2 jours d'affaires à la braderie d'automne de Charleville-Mézières. Cette traditionnelle braderie annonce son édition 2023 ce vendredi et samedi 4 novembre. Environ 200 étals et commerçants déploieront leurs marchandises à petit prix entre les rues piétonnes et le cours Brillant. Est-ce que vous irez?
Ah ben absolument, mais le cours Brillant à Charleville qui remonte effectivement vers la rue piétonne. J'irai faire un tour, j'espère qu'il ne pleuvra pas, on verra ça dans quelques instants dans la page météo.
Et en tout cas, vous pourrez retrouver des vêtements, des jouets, des chaussures, de la maroquinerie, des éléments d'électronique.
À bas prix en général.
Faire, hein. Des bonnes affaires, oui.
Des bonnes affaires.
Tout à fait.
En période d'inflation, en période de difficulté, les gens se précipitent dans ces braderies.
C'est ça. Et puis la journée de demain sera réservée au commerce sédentaire. Celle de samedi sera également ouverte aux exposants. À l'occasion, le cours Brillant sera complètement interdit au stationnement et aux arrêts. Bon à savoir.
À 18h36, c'est l'heure pour nous, en cette période de vacances scolaires, de revenir sur l'aventure du lycée Jean 23 de Reims, avec dès la rentrée, le 6 novembre, la préparation d'un projet réalisé en juillet prochain, le projet qui s'appelle Kilimandjaro, avec une jeune lycéenne de 16 ans qui va faire l'ascension de la montagne et est accompagnée par des jeunes de Saint Jean 23. Pour nous en parler, Marc Besancenet, alors c'est un projet qui démarre en ce moment.
C'est un projet qu'on lance cette année pour cet été. On va partir en juillet 2024 pour atteindre le sommet du Kilimandjaro, mais pas avec n'importe qui. L'idée, le défi en fait de ce projet, c'est d'amener une jeune, une lycéenne, Lise, qui est porteuse d'handicap. Elle est unijambiste, qui est élève au lycée Jean 23, Saint Jean 23, qui est élève en première. Et en fait, cette jeune qui est donc unijambiste, on va l'amener. Elle va marcher jusqu'en haut, jusqu'au sommet du Kilimandjaro.
Et toute la communauté éducative va se mobiliser parce qu'on a tous une montagne à gravir. C'est un peu la démarche.
Voilà, c'est ça. En fait, l'idée, c'était de montrer que tout est faisable, quelles que soient effectivement nos capacités. C'était montrer que rien n'était impossible. Et du coup, il y a effectivement toute une communauté qui est en mouvement derrière. Des jeunes qui vont monter, qui vont l'accompagner dans la préparation et des jeunes qui vont aussi monter avec elle jusqu'en haut. Et puis, toute une communauté en mouvement.
Marc Besancenet, vous auriez pu dire, on gravit la montagne de Reims, hein, on gravit une colline dans le département des Ardennes, dans les boucles de Meuse, mais le Kilimandjaro. Pourquoi le Kilimandjaro ?
À Kilimandjaro, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'il y a le côté mythique du Kilimandjaro.
Kilimandjaro, combien de mètres ?
Ah, alors, on est à juste en dessous de 5900 mètres, 5896
On frôle
mètres.
Les 6000 ?
On frôle les 6000 mètres, oui, effectivement. Donc, il y avait ce côté mythique, un sommet très élevé, c'est le toit de l'Afrique. Mais aussi, le choix, il s'est pas fait de façon au hasard non plus. C'est que, malgré la hauteur, ça reste une montagne qu'on va pouvoir accéder à pied.
C'est accessible.
C'est accessible. C'est pas la haute montagne en France. On n'est pas dans les Alpes. C'est pas de l'alpinisme. Ça reste un trek difficile, mais accessible en marchant, normalement, sans être encordé. On part avec 6 jeunes. Donc, il y a 6 jeunes qui sont dans l'aventure, qui vont porter d'ailleurs Lise toute l'année pour s'entraîner avec elle et l'accompagner. Et ces 6 jeunes ont bien compris que l'idée, c'est bien sûr que tout le monde arrive en haut du Kilimandjaro. Mais le but principal, c'est porter Lise, porter dans le sens psychologique du terme, mais la porter au plus haut pour qu'elle accède à ce sommet.
Merci Marc Besancenet, on aura l'occasion d'en reparler. D'ailleurs, vous serez en direct mercredi prochain à 7h, le 8 novembre, donc mercredi prochain, pour nous parler avec le lycée Saint-Jean 23 d'un projet forum post-bac dans un tout autre domaine. À 18h39, c'est l'heure pour nous de retrouver la météo.
Et oui Jean-Pierre, alors demain, vendredi 3 novembre, Météo France annonce qu'au niveau des températures, il fera plus froid qu'aujourd'hui. Mais la pluie devrait être rare. Demain matin à Reims et dans les Ardennes, les nuages couvriront la totalité du ciel. La température Demain sera donc de 12 degrés, mais le ressenti sera plus frais.
Ah oui, toujours un petit vent quand même.
Un petit vent, il fera 10 degrés et la force du vent oscillera aux alentours de 38 km par heure. Rien à voir avec les vents d'aujourd'hui. Pour demain après-midi, à Reims et dans les Ardennes, de nombreuses éclaircies parsèmeront le ciel. La température de demain sera de 12 degrés. Le vent sera de l'ordre de 30 km par heure. On attend alors 11 degrés dans l'ensemble du département.
Alors on s'interroge toujours quand on est en fin de journée qui a la météo sur le saint du jour, demain. Vous avez une idée, Lorraine ?
Eh bien, j'ai une petite idée.
Ah bon ? Alors ça nous intéresse.
Alors demain, vendredi, nous souhaitons une bonne fête à tous les Hubert. Rappelons que saint Hubert est vénéré comme le patron des chasseurs. Saint Hubert fut évêque de Maastricht vers 706. Pour la météo, rassurons nos auditeurs, il y aura moins de vent qu'aujourd'hui.
C'est ça c'est une parole rassurante,
voilà.
Parce que tout le monde se demande si ça va continuer. Ça devrait aller en dégraissant, comme on dit, pas dégressivement.
Ça devrait s'améliorer.
Faut parler français. Ça va s'améliorer et demain, on n'aura pas des vents comme on en a connu aujourd'hui, puisque vous l'avez annoncé, 38 km/h. Et c'est quand même tout à fait rien à voir avec la tempête. 18h40, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la suite du magazine.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
Et aujourd'hui, 2 novembre, c'est la commémoration des défunts. C'est le jour des morts, comme on l'appelait il y a quelques années encore, et on l'appelle encore aujourd'hui comme cela. C'est l'occasion pour nous de faire le point avec un historien. On l'a fait au moment de la Toussaint. On l'a fait au moment du 2 novembre aujourd'hui. Patrick Demuy est avec nous. Patrick Demuy, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Alors pouvez-vous nous dire quelle est l'origine finalement de cette fête
commémoration
des
morts, des fidèles défunts, voilà, c'est le terme
liturgique. C'est le terme exact.
Voilà. Et ben c'est là une pratique à la fois ancienne dans la dévotion personnelle, mais relativement récente, c'est-à-dire environ un millénaire quand même, dans le calendrier liturgique. Je m'explique, les chrétiens ont toujours prié pour leurs défunts et persuadé, bien sûr, qu'avec la communion des saints, il restait dans une autre vie, mais qu'il était nécessaire de prier pour eux s'ils n'avaient pas donné toute satisfaction
c'est
dans leur
presque
terrestre.
Depuis, je ne dis pas l'origine des temps, mais...
Oui, il y a toujours cette inquiétude que le défunt ne se présente pas assez purifié devant son créateur. Et il faut ce qu'on appelle des suffrages dans le langage ecclésiastique, c'est-à-dire dire des prières, aussi dire des messes. Saint Augustin, déjà, soutient que les fidèles peuvent se rendre utiles aux défunts en priant pour eux. Alors, bon, les saints que l'on fête à la Toussaint, ce n'est pas la peine. Ils sont dans la joie du Père. Bon, les damnés qui sont en enfer, là, l'affaire est entendue.
On les a un petit
mais
peu tombés.
Il y a quand même toute une classe intermédiaire dont nous sommes tous, n'est-ce pas ? Ni des saints, ni des affreux.
Mais alors, Patrick Demuy, on a une petite idée de la réponse. La Toussaint, c'est le premier, donc les défunts, ça sera le 2. Mais c'est venu comment ?
Alors, c'est venu le 2 à partir des environs de l'an 1000. La date qui a été choisie, elle a été dans la ville de Cluny. Alors, repensons à la grande importance de cette abbaye qui a rayonné sur toute l'Europe, mais aussi à ce qu'est la vocation du moine. Dans cette société médiévale où l'on théorise trois ordres, ceux qui prient, ceux qui combattent, ceux qui travaillent, les moines sont par excellence ceux qui prient pour les vivants et qui prient pour les morts. Et si vous fréquentez parfois les abbayes, vous voyez que dans les offices quotidiens, on prie toujours pour la mémoire des défunts, anime filium de functorum requiescantin pace, et plutôt d'habitude grégorienne. Et nous avons des messes de fondation. Une partie de la fortune des abbayes médiévales, et des chapitres aussi des cathédrales, vient des dons que font les fidèles pour que l'on célèbre régulièrement les messes à la mémoire des défunts. Donc c'est une pratique, si vous voulez, tout à fait naturelle dans le milieu monastique. Et ce qui s'est passé à cette époque, c'est l'extension de cette pratique monastique à l'ensemble de l'Église. Alors nous le devons à l'abbé Odilon de Cluny. Nous nous situons autour de 1030. Et la pratique monastique d'une prière spéciale pour les défunts le 2 novembre s'étend alors à l'Église tout entière. Le prestige spirituel de Cluny est pour quelque chose, et l'encouragement du pape. Alors c'est un pape que nous connaissons bien d'ailleurs, puisque c'est Léon IX, celui-là même qui a consacré notre abbatiale Saint-Remi en 1049. C'est Léon IX qui étend à l'ensemble de l'Église latine cette commémoration des fidèles défunts le 2.
Alors est-ce que à l'intérieur de l'évolution historique, il y a eu des moments forts pour la célébration des défunts? Comment ça pouvait se passer à la cathédrale? Est-ce qu'il y a eu une évolution ou est-ce que...
C'est-à-dire qu'il y a, surtout l'accent qui est mis sur la proximité avec la Toussaint, puisque après avoir célébré tous ceux qui sont dans la gloire du Père, on fait mémoire de ceux qui ont peut-être besoin d'un coup de pouce pour pouvoir y accéder, pour nos prières. Mais il est important de bien faire la distinction, car il y a trop souvent aujourd'hui une confusion dans nos esprits, puisque la Toussaint est un jour férié, et donc on a tendance à en faire la fête des morts. C'est ce jour-là que l'on va au cimetière avec son chrysanthème.
Voilà, c'est le cimetière traditionnel.
Et alors que la fête de la Toussaint, c'est une fête des vivants, et la commémoration des défunts, c'est une festivité, alors que le lendemain, c'est une commémoration. Alors, effectivement, là, il y avait des pratiques de bénédiction des tombes. Parce que c'est tout un phénomène particulier de la christianisation, c'est le retour des morts au milieu des vivants. À l'époque romaine, les nécropoles sont à l'extérieur des murs. On n'enterre pas les morts au milieu des vivants. Et c'est ce que nous voyons bien à Reims, où les basiliques, Saint-Remi en étant l'exemple le plus fameux, sont à l'extérieur de ce qui était le centre-ville de l'époque.
Là, mais c'est tombé un petit peu, Patrick Demy, on peut le reconnaître. Tout le monde parle, tout le monde, la Toussaint, on sait ce que ça veut dire, les cimetières aussi. Mais le 2 novembre, ça reste quand même moins connu.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça reste beaucoup moins connu parce qu'il y a encore une piété populaire qui s'exprime dans les cimetières de la part de gens qui ne sont pas forcément très croyants ou ni très pratiquants. Et ils ont manifestement un peu confondu les dates. Alors ça, c'est parce que nos cimetières sont maintenant parmi nous. Alors dans les villages, c'est autour de l'église. Pendant longtemps à Reims, il y avait de très nombreux cimetières urbains. Et ce n'est qu'à la fin du XVIIIe que, pour des raisons d'hygiène, on a supprimé les petits cimetières qui entouraient les églises paroissiales pour ouvrir d'abord le cimetière du Nord, derrière notre monument aux morts actuel, qui a été ouvert en 1787, et les autres cimetières ensuite ont été rejetés à la périphérie. Et les chrétiens vivaient finalement avec la mémoire des morts, et effectivement, les fleurs, des libations ont toujours été pratiquées. L'historien de la mort en Occident, qui s'appelle Philippe Ariès, parlait de mort apprivoisée à ce propos-là. Voilà, parce que la mort est une séparation physique, mais ça n'est pas une séparation spirituelle. Et le 2 novembre est là pour nous le rappeler.
Et à la cathédrale, dans l'histoire, il n'y avait pas de cérémonie particulière.
Oui, c'est une cérémonie particulière, et c'est le jour où l'on va bénir les tombes des chanoines. Ça se faisait encore il n'y a pas si longtemps que cela, moi, quand je suis un enfant de cœur à la retraite, du temps de Monseigneur Berton, dans les années 60, on nous embarquait, les clercs, au cimetière du Nord pour les tombes des chanoines.
Je vous signale aujourd'hui, mais vous le savez, Patrick Demuy, c'est qu'hier, le jour de la Toussaint, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort s'est rendu au cimetière de l'Ouest, parce qu'il doit partir, il devait partir à Lourdes pour l'assemblée plénière des évêques de France, donc il est parti un petit peu avant les autres.
Oui.
Et là, il y a une prière pour les défunts, les prêtres défunts, c'était au cimetière de l'Ouest.
Cimetière de l'Ouest, oui. Allez, au cimetière du Nord, ce sont les chanoines, parce que c'est une tradition plus ancienne, et les chanoines, il y a une tombe des chanoines de la cathédrale au cimetière du Nord.
Patrick Demy, comme d'habitude, on vous écouterait très longuement, vous qui êtes historien, spécialiste du Moyen-Âge en particulier, universitaire. Merci d'avoir été avec nous, et puis on va méditer sur ce que vous nous avez dit, et on souhaite à nos auditeurs une très très belle journée.
Dans l'espérance.
Dans l'espérance. Merci Patrick Demy, au revoir. Patrick Demy, qu'on retrouve régulièrement sur RCF. Et celui qu'on va retrouver ce soir avec beaucoup de bonheur dans un tout autre registre, avant de retrouver tout à l'heure Lorraine pour la page météo pour terminer, on va évoquer le club de foot de Sedan avec Yanni Hureau qui est avec nous en direct des Ardennes. Yanni, bonsoir.
Bonsoir Jean-Pierre.
Alors c'est vrai que vous êtes dans les Ardennes, là-bas du côté de Gesponsa. On en a parlé tout à l'heure avec Lorraine à la météo. Il n'y a pas eu trop de vent finalement dans les Ardennes, dans votre coin là.
Nous avons été épargnés pour une fois. Et ce qui ne nous empêche pas d'avoir beaucoup de compassion pour tous ceux qui ont dû souffrir de cette tempête apocalyptique, parce que le maire d'Arny, du village ardennais d'Arny, qui est actuellement en vacances en Bretagne, m'a laissé un message pour me dire, c'est lui qui emploie ce mot, qu'il avait vécu l'apocalypse.
Et en effet.
Que heureusement, ni la maison, ni sa famille n'ont dû en souffrir.
Alors Yanni,
on a été épargné, tant mieux,
du côté de Gesponsard, à quelques kilomètres de la frontière belge. Yanni, un problème, une question très importante, c'est le club de foot de Sedan. On ne peut pas s'imaginer à quel point, est-ce qu'on peut dire que pour les Ardennais, le fait que Sedan ne soit plus en national et ait été relégué de cette manière-là, la disparition du CSSA, est-ce que c'est un véritable traumatisme pour vous?
Oui, c'est tout à fait le mot. Et ça dépasse, Jean-Pierre, largement le football, c'est-à-dire des gens qui ne... L'exemple de mon épouse ou des gens que je connais, qui n'ont jamais mis les pieds au stade, soit le stade Émile Albaud, soit le stade Louis Dugoguez, où avaient eu lieu les exploits du Grand Sedan, eh bien ces gens sont quand même touchés par ce qui arrive au club de foot de Sedan, parce que c'était pour les Ardennes quelque chose, et pour les Ardennais quelque chose de considérable. On ne s'y rend pas bien compte. Pour celles et ceux qui n'ont pas vécu les triomphes en Coupe de France, ou aussi les finales perdues en Coupe de France, ce que ça pouvait représenter pour le département, à la fois, si vous voulez, quelque chose qui correspondait un peu à une revanche, surtout, notamment la première finale de Coupe en 1956, remporté en 56, une revanche sur tout ce qu'on avait subi comme humiliation pendant la guerre, le désastre de mai 40 à Sedan, puis les duretés de la vie, etc. C'était tout d'un coup des Ardennes qui arrivaient sur le plan national. Et après, ça s'est encore fait, excusez aussi la comparaison ou l'allusion à Reims, qui est bien sûr le club rival depuis toujours, mais c'était en même temps quelque chose de très très important, et c'est vous dire l'ampleur du traumatisme, pour reprendre votre expression actuellement, enfin quand vous pensez que il n'y a pas si longtemps que ça, on disputait la finale de Coupe de France, on était, je dis bien on, vous voyez, c'est significatif, toutes les Ardennes, on réussissait à battre le Paris Saint-Germain, on accomplissait des exploits, et j'ose pas vous le dire, Jean-Pierre, quand vous pensez qu'actuellement, nous jouons contre des villages, nos adversaires sont des villages des Ardennes, des petits villages, c'est quelque chose d'hallucinant. Et en même temps, ce qui est sidérant, c'est que l'adhésion populaire reste, pour ainsi dire, la même, quand vous pensez que pour un match de championnat qui oppose Sedan à un village ardennais de 2000 habitants ou de 1500 habitants, et parfois même de moins, il y a au stade de Sedan, eh bien, tenez-vous bien, 2000 spectateurs qui crient à des Sedan.
Alors, il faut rappeler, je vous interromps 20 secondes, Yanni Hureau, parce que tout le monde n'est pas spécialiste du football, tout le monde peut croire, Sedan, on n'en parle plus parce qu'il n'a pas de résultats sportifs, mais le paradoxe, c'est qu'il avait des résultats sportifs, il était bien classé, je crois qu'il était 7e du classement national, et puis il a été rétrogradé de 3 ou 4 divisions, pour des raisons administratives, pour des raisons financières, parce que les organismes responsables du football ont dit ils n'ont pas les finances pour suivre. Donc, ils ne sont pas battus sur le sport.
Oui, ils se sont nullement basés sur le sport. Ils se sont basés sur le fait que, moi, personnellement, je n'ai pas discuté, que qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses, qu'il n'y avait plus moyen de payer les joueurs, que le club était en déroute financière. Je crois surtout que ce qui s'est passé objectivement, c'est que quand le problème a été mis sur la table par l'ancien président qui se retirait, qui démissionnait, le problème n'a pas été pris assez vite à bras-le-corps. C'était une course contre la montre en plein été et malheureusement ça a capoté. Et je vous dis, c'est quelque chose d'incroyable. Puis il faut voir un autre aspect, si vous permettez. C'est que les villageois qui viennent jouer au stade du Gauguès contre Sedan, eh bien, d'habitude, ils jouent dans leur village sur des terrains campagnards. Ils jouent devant 30, 40 spectateurs. Là, tout d'un coup, ils jouent contre 2000. Devant 2000 spectateurs, vous imaginez ce que ça représente. Et en même temps, je vous dis bien quelque chose. Le mot va peut-être vous surprendre, vous parliez de traumatisme, quelque chose pour nous d'irréel, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller au stade pour se rendre compte que c'est vrai, ou il faut lire le journal, ou pour se rendre compte qu'effectivement,
mais pourtant, Jacques,
c'est pas une hallucination.
Yannick, voilà. Je vous interromps, mais il y a eu une mobilisation complète de beaucoup d'élus, de responsables, tout le monde s'est battu. Non, moyen, vous dites moyen peut-être.
Non, je ne veux pas entrer dans la polémique. Il y a eu une mobilisation tardive, ça a été ça le problème. Une mobilisation tardive, il n'y a pas eu une mobilisation immédiate, en tout cas, sans entrer dans la polémique et sans citer le nom de ce que vous dites, que vous avancez en parlant de tous les élus. Ce n'est pas vrai que tous les élus se sont mobilisés. Certains se sont ardemment mobilisés, d'autres sont restés en retrait, pour parler simplement.
Ça sera encore certainement l'objet d'une bequette, Yann Hiraud. Alors si, on aime bien avoir quand même, non pas le contenu, mais ce que vous allez écrire dans le journal L'Ardennaise, qui va être publié demain matin, ça va tourner au cours de quel sujet, Yann Hiraud?
Je ne vais pas vous dire ce qui paraîtra demain, mais je vais vous dire les trois bequettes que je vais prochainement consacrer, successivement, à quelque chose qui me touche beaucoup et que je me permets de signaler à vos nombreux auditeurs. Alors, à l'approche du 11 novembre, c'est la publication d'un document à mes yeux exceptionnel, le journal de guerre que pendant la guerre 14-18, une jeune paysanne de Fesseau, qui est un petit village près de Rethel, a tenu sous l'occupation allemande. C'est quelque chose de prodigieux. Elle tient ça au jour le jour. Elle écrit tout ce qu'elle, toute sa famille et tout ce que les villageoises et les villageois subissent sous la férule allemande. Et en même temps, moi ce qui me fascine, elle est très pieuse, elle souffre énormément, mais jamais elle ne s'abandonne véritablement à la haine. C'est tout à fait étonnant, elle souffre. Elle en veut, bien entendu, aux occupants. Elle n'emploie qu'une seule fois le mot « boche hein ». Et écoutez, franchement, Jean-Pierre, ce document m'a ému.
Et vous en parlez, vous allez en parler dans l'Ardennaise.
Et à l'histoire de la Grande Guerre.
Yannick,
et à cette histoire...
Yannick, on va vous rappeler la semaine prochaine.
Les Ardennes ont été le seul département occupé par
pendant
les Allemands en 14-18.
Absolument.
Il faut impérativement lire ce document.
On lira ce document, on lira la bequette.
Ça s'intitule le journal d'Amélie Maillard.
Oui, et c'était dans l'Ardennaise d'aujourd'hui
par
également.
La Société d'Histoire des Ardennes.
Merci Yann Hiraud d'avoir été avec nous. On écoutera, bien sûr, on vous réécoutera tout prochainement. Et puis on écoutera la semaine prochaine ou demain Jacques Ivès, libraire qui a traversé de nombreuses années, qui a travaillé à la librairie Guerlain et qui vient de publier un livre qui a pour titre « Que lentement passent les heures ». On le retrouvera la semaine prochaine. Il revient à Reims et à Jonchery-sur-Vel pour une dédicace. Merci à Yanni. Et puis on se retourne vers vous pour terminer cette édition magazine Lorraine. Avec la fameuse météo, parce que tout le monde aujourd'hui a parlé du vent, de la grêle, de la tempête, enfin voilà.
Oui, alors rassurez-vous, demain, de grandes améliorations seront prévues, puisque la pluie déjà devrait être rare, et les températures, comprises tout de même entre 10 degrés et 12 degrés, ne seront pas très froides.
Donc, voilà. On peut dire quand même qu'on est quand même, il faut bien oublier que nous sommes le 3 novembre demain, et que ce sont des températures parfaitement de saison. On dirait même qu'elles sont peut-être un peu chaudes même, hein. 12 degrés, c'est quand même pas...
Oui.
Mais alors la pluie, moins de pluie,
moins de vent. Le vent surtout, nous avions quand même plus de 90 km par heure de vent aujourd'hui
et
demain.
30 km.
Entre 30 et 38 km par
heure. Le saint du jour demain,
le saint
un
du
mot.
Jour, nous fêterons les Hubert.
Saint Hubert, patron des chasseurs, et vous l'avez dit tout à l'heure, qui fut évêque de Maastricht en 706. Pour nous, il est l'heure de nous séparer, de vous souhaiter une très très bonne soirée, d'écouter le journal national de 19h et demain matin 7h en direct de Lourdes avec Mgr Étienne Vietteux. Merci Lorraine d'avoir été avec nous.
Merci Jean-Pierre.
Très bonne soirée sur RCF et à bientôt.